VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, le ton monte à 3 jours seulement de la présidentielle. La société civile dit non à la décision prise hier par la Commission électorale nationale d'autoriser le vote par témoignage. Le point avec Nicolas Pineau, envoyé spécial de VOA Afrique à Niamey.
Oui, le collectif Résistance Citoyenne, qui regroupe différentes associations de la société civile nigériane, a donc tenu un point de presse ce jeudi. Le collectif dénonce une décision illégale et inacceptable de la Commission électorale nationale indépendante, qui, vous le savez, hier a autorisé le vote par témoignage, une décision qui concerne environ plus d'1 million d'électeurs au Niger avant le scrutin du 21 février. Le secrétaire général de l'Alternative citoyenne, Moussa Tchangari, a notamment laissé entendre qu'il pourrait appeler à une mobilisation des électeurs sans préciser quelle pourrait être cette mobilisation. En tout cas, vous le voyez, le débat n'est pas clos ici au Niger avant le scrutin de dimanche prochain. Nicolas Pineau, Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, des réactions à la décision du président Macky Sall de renoncer à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Le mouvement Yanamar, qui avait activement milité pour le départ du président Abdoulaye Wad, est très remonté contre le président Macky Sall. On écoute Malal Tala, alias Fou Malade, du mouvement Yanamar à Dakar.
Macky Sall a violé la parole d'honneur. Quand le président de la République, gardien des institutions, quand il dit une chose, ça engage aussi tous les Sénégalais, parce que c'est le président de tous les Sénégalais. C'est en même temps un manque de respect à l'endroit de tous ces Sénégalais, de tous ces jeunes qui ont voulu voir partir Wade et élire Macky Sall. Nous combattrons Macky Sall jusqu'au bout. Quand il battra campagne, à côté on battra campagne pour dire aux Sénégalais, allez voter massivement non. Et quand vous voterez massivement non, le président sera désavoué et ça permettra aux politiciens, aux politiques en général, de comprendre que le peuple reste encore debout.
Malal Tala, alias Fou Malade, du mouvement Yanamar à Dakar. Au Mali, le journaliste Birama Touré du journal Le Sphinx est toujours porté disparu, introuvable depuis le 29 janvier 2016. Les organisations professionnelles des médias se mobilisent. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Aujourd'hui, cette disparition de notre confrère alimente toutes les causeries dans les grains à Bamako et les commentaires sur les réseaux sociaux. Birama Fall, président de l'association des éditeurs de presse au Mali.
Les sujets qu'il traitait, c'est des sujets qui ne fâchent pas. Je ne vois pas pourquoi on va l'arrêter, on va l'emprisonner ou bien on va l'agresser. Moi, je ne vois pas ça. Maintenant, ça aurait été un autre journaliste. Je peux compter qu'il avait été arrêté. Mais la sécurité d'État qui se cherche aujourd'hui a choisi de nous accompagner. Il y a 2 officiers suprêmes de la sécurité d'État qui sont en train de le chercher activement, sans compter qu'au niveau des services de la police scientifique, on a fait une traçabilité sur son téléphone. Donc on est en train de voir à qui il a téléphoné, quand est-ce qu'il a téléphoné, où il a téléphoné.
Il y a de l'espoir chez les confrères, dans la mesure où les enquêteurs ont pu savoir où Birama a fait ses derniers appels téléphoniques avant de disparaître. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Burundi et la République démocratique du Congo demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de rappeler à l'ordre le Rwanda, accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser Bujumbura. L'ambassadeur burundais à l'ONU, Albert Shingiro, a réclamé une réunion d'urgence du Conseil afin, dit-il, de prendre des mesures appropriées contre les agissements de Kigali. À Bujumbura, Gélase Ndabirabe, le président du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, accuse le président rwandais Paul Kagame d'être à la base de tous les malheurs du Burundi.
Ceux qui s'accusent ou qui se reconnaissent dans ces malheurs qui ont endeuillé le Burundi font tout pour ne pas se mettre à nu et préparent des manipulations mensongères conduisant à la déstabilisation du pays dans le but de ne jamais permettre au peuple burundais d'avoir du temps nécessaire pour se pencher sur l'histoire véritable du Burundi. Pour s'être impliqué dans différents événements de l'histoire du Burundi, Paul Kagame devrait d'ores et déjà penser. Ce n'est pas en cherchant à asphyxier le dialogue inter-burundais pour se précipiter vers des facilités de putsch ou d'imposition d'une transition quelconque que la vérité sera évitée, puisque chaque chose a son début et a sa fin.
Gélase Ndabirabe, le président du CNDD-FDD, le parti au pouvoir à Bujumbura. La République démocratique du Congo a annoncé aujourd'hui à Kinshasa vouloir enquêter sur les nouvelles accusations de violences sexuelles visant des casques bleus congolais de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. J'ai donné injonction à l'auditeur général pour envoyer trois magistrats militaires pour enquêter sur place, a déclaré à l'AFP Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice congolais, en référence au procureur général du parquet militaire. Mardi, un porte-parole de l'ONU avait annoncé que des casques bleus originaires de la RDC étaient accusés d'avoir agressé sexuellement quatre enfants vivant dans un camp de déplacés en RCA entre 2014 et 2015. En Ouganda, les électeurs votent aujourd'hui pour élire leurs députés et leur prochain président. Le chef de l'État sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, est en favori face à une opposition divisée. Mais des retards étaient enregistrés dans plusieurs bureaux de vote de Kampala, la capitale. Les électeurs ougandais doivent choisir leurs 290 députés et décider s'ils maintiennent ou non leur confiance à Yoweri Museveni, âgé de 71 ans, et en quête d'un cinquième quinquennat face à 7 autres candidats. Kenya, l'armée kenyane dit avoir tué Maad Karate, le chef des renseignements du groupe islamiste somalien des Tchebab, dont la tête avait été mise à prix pour 5 millions de dollars par les États-Unis. Et ce, lors d'une frappe aérienne le 8 février dans le sud de la Somalie. 10 autres commandants Tchebab auraient également péri lors de cette attaque, selon le porte-parole de l'armée kenyane, David Obonio. Pour leur part, les Tchebab demandent catégoriquement qu'il y ait eu ce raid aérien kenyan contre leurs militants. Au Tchad, Albert Paimi Padake, le nouveau Premier ministre tchadien nommé le 13 février dernier, a rendu publique la liste de son gouvernement hier sur les chaînes nationales. Plus de précisions avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajinga.
De 28 membres de l'ancien gouvernement, Paimi Padake Albert passe à 38 avec la création d'un nouveau ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et de la démocratie locale et 8 secrétariats d'État. Deux ministères s'éclatent. Il s'agit du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Éducation nationale. Il y a au total 20 entrants contre 12 départs, parmi lesquels Hassan Sila Bakari de la Communication, Garlena Dojengar des Finances et Abdurrahman Mokhtar Mahamat de la Fonction publique. L'on note également 6 femmes dans cette nouvelle équipe contre 5. Un confrère fait son entrée dans ce gouvernement. Il s'agit de Brah Mahamat, alors directeur de la communication à la présidence de la République, qui se voit confier le portefeuille de l'environnement et de la pêche. Les tout-puissants ministres sous Déby, tels que Moussa Faki Mahamat des Affaires étrangères, Adoum Younousimi des Infrastructures, Ahmad Mahamat Bachir de la Sécurité publique et Daoussa Déby des Postes et de Nouvelles Technologies, gardent leur portefeuille. Quelques citoyens dénoncent le nombre pléthorique de ce gouvernement.
On nous fait croire que le pays a un problème financier. Subitement, le nombre du gouvernement passe de 29 à 38. Ça étonne quand même. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour payer et ces gens, c'est non seulement leur salaire, leurs équipements, leurs installations. Parce que si on nous dit qu'il n'y a pas l'argent et qu'on doit augmenter le nombre de membres du gouvernement pour surcharger le budget tchadien, c'est un dommage. D'abord, la nomination du Premier ministre nous surprend. Parce que je viens de lire dans un journal, ce parti s'organise pour aller au Congrès le 20, pour peut-être se présenter aux élections subitement. Par quel miracle il est devenu Premier ministre?
On parle du gel de l'intégration compte tenu de la situation financière du pays. Alors je trouve que c'est une insulte à l'endroit de la population tchadienne pour ne pas répondre à toutes ces revendications.
Nous avons pensé que nos gouvernants doivent prendre des mesures salvatrices en supprimant certains postes ministériels et redresser le régime financier. Mais nous déplorons que le gouvernement soit insensé à cette situation de crise.
3 députés à l'Assemblée nationale se retrouvent dans ce gouvernement dit de combat, y compris le Premier ministre lui-même, André Kodumadjingar N'Djamena, la voix de l'Amérique.
L'actualité dans le reste du monde maintenant. En Turquie, la police dit avoir identifié l'auteur de l'attentat à la voiture piégée qui a fait 28 morts hier soir à Ankara. Il s'agirait d'un Syrien récemment entré en Turquie comme réfugié et présenté comme proche des milices kurdes de Syrie. C'est ce que rapportent les médias. Le conducteur du véhicule bourré d'explosifs qui a détruit plusieurs bus militaires près de l'état-major de l'armée s'appelle Salih Nekar et il est mort lors de l'explosion, ont précisé plusieurs quotidiens de Turquie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.